Le rendez-vous des pros de la location saisonnière revient pour la seconde édition. C'est le salon pour tous les acteurs du secteur. Pour vous, conciergerie, mais aussi agence IMO, souleur pro et investisseur IMO. C'est le 31 mai au DOC de Paris. Si vous êtes venu l'année dernière, vous n'allez pas être déçu. Il y a de grandes nouveautés comme la possibilité de prendre un billet salon plus mastermind. Élise, la fondatrice du salon, nous explique d'ailleurs toutes les nouveautés dans l'épisode 82 du podcast. Si vous n'avez pas encore votre place, vous pouvez profiter de 15% de réduction avec le code Vanessa24. Alors ne perdez pas de temps et allez sur rendez-vous-location-saisonnière.com, rdv-location-saisonnière.com. Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès ? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Je me rends compte que si vous écoutez plusieurs épisodes d'affilée, il me semble que j'introduis l'épisode toujours de la même manière à chaque fois. Aujourd'hui, on va voir plusieurs sujets. Quand on se lance dans la location courte durée en tant que conciergerie, sous-loueur ou investisseur, on peut vite être débordé par la gestion quotidienne de ses logements, ses annonces et tout ce qui va avec. Dans l'épisode 51, Nicolas de la chaîne YouTube Automatic BnB nous expliquait comment il arrive à passer seulement 2 heures par semaine pour ses 20 logements. Il a réalisé la semaine dernière un webinaire en direct sur le sujet pour nous donner ses secrets. Ce webinaire, je l'ai suivi en incognito et il y avait vraiment beaucoup de valeur. Le prochain webinaire est le 12 mars à 20h et je vous conseille vraiment d'y participer. Je vous mets les infos en description de l'épisode et bien sûr, vous retrouverez ces infos dans la newsletter qui sort jeudi matin. Deuxième chose à vous dire, il y a actuellement 81 notes sur Apple Podcast et 91 notes sur Spotify. Merci pour ça. Si vous n'avez pas encore noté ce podcast, sachez que c'est crucial pour le développer et surtout, ça m'aide à avoir plus de poids pour démarcher des invités de choix sur le podcast. Alors merci à ceux qui y penseront. Troisième et dernière chose, c'est l'épisode du jour. Cette semaine, les invités, c'est vous. Depuis un an, vous m'avez posé des dizaines et des dizaines de questions sur Instagram. J'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes et de réaliser cet épisode en mode questions-réponses. Et pour la fin, je partagerai vos meilleures anecdotes, histoire qu'on rigole un petit peu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, première question, quels sont les outils indispensables quand on a une conciergerie ? Alors, cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Souvent, on me demandait quel channel manager utilise-tu ou autre. Alors, sachez que je ne vais pas donner de nom. Il faudra que vous regardiez, vous, si ça s'adapte à votre utilisation. Pour moi, les outils indispensables, d'abord, ça va être de maîtriser les plateformes sur lesquelles vous allez mettre les logements. C'est bien beau de mettre sur peut-être 1, 2, 3, voire 5, voire 10 plateformes. Ça sert à rien si vous les maîtrisez pas. Le but, c'est de connaître comment fonctionne à peu près l'algorithme. On n'a pas besoin de connaître en détail parce que de toute façon, on le saura pas. De maîtriser comment on peut gérer toute la partie, à l'intérieur pour pouvoir être plus visible. Donc, maîtriser les plateformes, ça va être l'outil indispensable, si on appelle ça un outil. Ensuite, oui, il faudra un channel manager pour la gestion opérationnelle, pour l'expérience voyageur, l'expérience propriétaire. De nos jours, il y a des channel managers qui font tout ça à la fois. Vous n'êtes pas obligé de prendre un channel manager qui va juste synchroniser des calendriers, parce que c'est son objectif de base. Vous pouvez aussi prendre un channel manager qui va vous aider à gérer la gestion des ménages, par exemple, à gérer un espace propriétaire. Il existe pas mal de choses sur le sujet. Je pense que prochainement, je vous ferai un comparatif en fait des outils pour que vous voyez ce qui est le plus adapté pour vous. Un autre outil, ce serait de quoi mesurer vos performances au fil du temps pour pouvoir vous améliorer. Tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, si vous savez que ce mois-ci, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, que le mois prochain, vous avez fait tant de chiffres d'affaires, vous pouvez déjà évaluer votre performance. Aussi en nombre de logements, mais pas que. En taux d'occupation, vos prix à la nuitée, est-ce qu'ils ont changé? Tout ça, il faut que vous puissiez vraiment le suivre parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir... C'est comme ça que vous allez pouvoir monter en compétence sur ça et justement vous améliorer au fil du temps. Passons à la deuxième question. Peux-tu me donner une astuce sans faille pour me faire connaître ? Alors là, il y aurait deux choses. intégrer les réseaux d'entrepreneurs, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, pour se faire connaître dans sa ville quand on démarre, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Et pour faire du bouche à oreille, il faut parler aux bonnes personnes. Dans ces cas-là, intégrer des réseaux d'entrepreneurs, si je devais en donner un de nom, il y a le BNI. Je vous dis pas de vous inscrire à ce genre de réseau d'entrepreneurs parce que ça peut être très onéreux quand on commence et puis c'est aussi très contraignant. Après, à vous de voir hein, si ça vous intéresse, mais c'est vrai que le métier de conciergerie n'est pas beaucoup représenté et intégrer ces réseaux vous permet vraiment d'agrandir votre réseau, de pouvoir parler de votre activité. Et pour le BNI, vous avez le droit d'être invité par une personne. Donc, vous pouvez en parler. Je crois que vous pouvez être invité peut-être deux fois. Donc, vous pouvez faire plusieurs BNI s'il y a plusieurs BNI dans votre ville, enfin, dans votre secteur, parce que ça peut être, par exemple, moi qui suis sur Bordeaux, je sais qu'il y en a plusieurs aux alentours, les villes qui touchent Bordeaux. Voilà. Et deuxième chose, ça c'est vraiment une astuce que une conciergerie m'avait donnée, c'est faire un article dans le journal local. C'est vrai que les journaux locaux sont souvent en manque d'articles. Et si vous leur apportez un article tout prêt, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'acceptent pas. Donc, faire un article dans le journal local pour dire que vous êtes lancé, que vous avez une conciergerie, que vous proposez tel service et que vous êtes à telle adresse, ça va vraiment vous apporter des prospects et peut-être même des clients par la suite. Donc ça, je vous le conseille fortement. Troisième question, la méthode. Est-ce que tu as une méthode pour trouver rapidement 5 premiers clients? Alors ça aussi, je crois que je l'ai déjà abordé. Pour moi, il faut prospecter sur les plateformes de location. Attention, pas les plateformes de réservation, mais les plateformes de location. C'est quoi les plateformes de location? Concrètement, c'est Le Bon Coin. J'avais dit que je donnais pas de noms, mais finalement, je donne des noms. Si, Le Bon Coin, c'est là où j'ai eu le plus de clients. Mais il y a une méthode pour ça. Il ne faut pas prospecter les personnes qui louent en courte durée. Ça n'a aucun intérêt parce que souvent, ce sont des particuliers qui gèrent eux-mêmes et qui n'ont pas besoin d'aide. Mais prospecter les gens qui louent en longue durée et leur expliquer qu'ils peuvent gagner plus en le louant en le louant à des voyageurs, tout simplement. Et vous pouvez leur faire une étude de marché, une estimation de combien ils peuvent gagner avec des sites sur lesquels vous pouvez estimer les locations. RDNA, quoi. La deuxième manière de trouver très vite ses premiers clients, ce serait de demander des recommandations à son entourage. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui n'ose pas faire de la location courte durée par manque de connaissances ou qui a besoin d'aide dans la gestion. Donc, on a tous un grand-oncle qui a un logement qui est fermé et qui ne loue pas parce qu'il le garde pour partir en vacances l'été. Dites-lui que finalement, qu'il peut gagner tant, voilà, encore avec RDNA, et que vous pouvez l'aider dans la gestion quotidienne. Passons à une autre question. Quelles sont les différences majeures entre la gestion d'un appartement et la gestion d'une maison? Alors, c'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé, enfin, on m'a posé beaucoup la question. Dans un épisode où on parlait d'une conciergerie de luxe, alors j'ai plus le numéro en tête, on parlait des différences entre gérer une maison et gérer une maison de luxe. Donc ça, si c'est une question que vous vous posez, vous pourrez retrouver l'épisode. Là, on demande plus quelle est la différence entre un appartement et une maison. Mais il y en a plusieurs. Déjà, la commission que vous allez récupérer dessus est plus faible parce que les nuitées sont plus faibles. Donc, c'est sûr que pour un appartement, vous pourrez récupérer au plus bas 350 euros par mois, alors que pour une maison, au plus bas, vous pourrez être facilement à 750 euros. Et ça, c'est vraiment au plus bas. Ça dépend vraiment de la maison, de là où vous êtes situé. Bien sûr, j'ai donné mes chiffres à moi en moyenne. Donc, ça dépend de votre ville. Donc, déjà, sur ça, faut le prendre en compte. Par contre, la gestion est plus facile en appartement qu'en maison. Alors certes, vous gagnez moins, mais vous y passez moins de temps. Par exemple, un appartement va souvent être plus petit qu'une maison et est plus facilement automatisable aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'accueillir des voyageurs, vous passez moins de temps à faire les ménages ou à déléguer les ménages. Donc forcément, en termes de ratio, on va dire temps et rentabilité, voilà, ça dépend ce que vous voulez. Finalement, si vous voulez plus de rentabilité ou plus de temps. Il faut savoir que les maisons aussi se loueront moins ou pas du tout en basse saison, alors qu'un appartement, ça va se louer toute l'année. Il faut le prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'une maison, vous allez la louer pendant les vacances, mais le reste de l'année, vous n'allez pas l'ouvrir. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Et puis, forcément, comme je vous disais, en maison, vous aurez plus d'entretien, ce sera plus long. Il y a souvent un extérieur, souvent plus grand. On peut accueillir plus de personnes. Donc, forcément, vous allez y mettre plus longtemps qu'un appartement. Un appartement studio, vous allez peut-être passer 45 minutes à l'entretenir, alors qu'une maison, vous allez y passer 4 heures. Donc, il faut le prendre aussi en compte. Je dis beaucoup, il faut le prendre en compte. Je vais essayer de ne pas trop le dire. Alors, aussi, il faut savoir que les voyageurs sont plus exigeants. Forcément, ils payent plus cher. Ils viennent à beaucoup de personnes en général. Un appartement, ils sont 2, 4 au maximum. Ça dépend du type d'appartement. Je fais des généralités, bien sûr. Donc, les voyageurs qui ont payé plus cher sont forcément plus exigeants. Pas tous, c'est aussi une généralité. Encore une question, comment gérer les check-in et check-out autonomes? Pour ça, il y a deux manières, c'est simple. Il y a la manière boîte à clé ou serrure connectée que vous mettez... Alors, je vais expliquer vraiment le détail parce que certains ne connaissent pas vraiment le détail. Un appartement, c'est vrai que c'est il y a plusieurs appartements, donc il y a un hall commun. Il faut pouvoir ouvrir déjà la porte de l'immeuble. Pour ça, soit c'est un digicode et là... pas de problème, vous donnez le code, soit c'est un Vigic, soit c'est une clé, il y a quoi d'autre? Il y a un interphone, ça c'est le mieux, parce que l'interphone, du coup, on peut l'automatiser, mais il existe plusieurs solutions pour automatiser l'ouverture de cette porte en bas, sans toucher du coup à la copropriété, sans toucher à l'interphone extérieur, parce que ça, vous n'aurez pas le droit. Donc, sachez que des fois, je partage dans ma newsletter les outils, puisque j'ai des personnes qui viennent me dire, moi, je propose cet outil-là, et je le mets en avant dans la newsletter. Donc, petite promo, ça permet de parler de la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, elle sort tous les jeudis matin, et je vous donne un conseil en général sur votre activité. Je vous parle de l'épisode du jour, donc toutes les infos de l'épisode du jour étant en général dans cette newsletter. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, ensuite, quand y a un appartement, il faut une serrure connectée, une boîte à clé. La boîte à clé, vous pouvez la mettre sur le palier ou bien une serrure connectée, c'est encore plus sécure. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est de récupérer les clés dans un lieu précis. J'ai déjà interviewé Kinest, qui fait ce genre de prestation. Kinest, c'est, en gros, il cherche pour vous un lieu qui est le plus proche du logement. Et vous signez un partenariat en tant que conciergerie ou propriétaire et vous y déposez vos clés. Ils ont, je sais pas trop comment ça fonctionne, peut-être une boîte pour les clés, voilà. Et votre voyageur doit aller récupérer ses clés dans ce commerce. L'inconvénient, c'est que du coup, le commerce n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais c'est un commerce qui a des grandes amplitudes horaires en général. C'est aussi un moyen pour le voyageur de rencontrer quelqu'un dans le commerce. Par contre, c'est indépendant de votre conciergerie. Vous ne savez pas si la personne sera professionnelle au commerce. Ça peut, malheureusement, on va dire, avoir des répercussions sur votre notoriété si le commerce n'est pas, professionnel, aimable ou autre. Il faut aussi le prendre en compte. Alors, je dis pas qu'il y a que des inconvénients. Hein. C'est aussi bien d'aller récupérer les clés à un seul endroit. Mais ça, c'est seulement si vous n'avez pas la possibilité d'automatiser avec une boîte à clés, une serrure connectée, j'ai envie de dire. Passons à la question suivante. Comment ouvrir une conciergerie dans une seconde ville? Alors, c'est vrai qu'on m'a posé la question. Alors ça, je voudrais clarifier les choses. On ouvre une conciergerie dans une seconde ville uniquement quand on a déjà été bien implanté dans la première ville. Attention, on va pas s'ouvrir un peu partout si on maîtrise pas chacune de ces villes. Donc d'abord, il faut automatiser le plus de choses dans sa première ville afin de se dégager du temps pour développer la seconde ville. Si cette seconde ville n'est pas très loin, alors le local que vous avez dans la première ville peut suffire. Parce que oui, il faudra un local. Ça, c'est la première étape en général. Et si c'est loin, il faudra trouver un autre local et de nouveaux prestataires aussi, parce que du coup, les prestataires vont pas aller très loin. Ils vont souvent rester dans la même zone. Et il faudra tout recommencer de zéro, en fait. Se faire connaître, faire sa publicité, les rendez-vous clients qui les fait, ça dépend si vous êtes au milieu entre les deux villes ou si c'est vraiment l'autre bout de la France. Là, il faudra trouver quelqu'un. Mais ça, je vous le conseille vraiment pas si vous démarrez. D'abord, implantez-vous dans votre ville ou dans la ville que vous avez décidé, hein, et développez cette ville à fond, soyez le leader de cette ville, si possible, et ensuite vous verrez pour ouvrir une autre ville. Alors, pourquoi ouvrir une autre ville d'ailleurs? C'est pas une des questions, c'est la question que moi je me pose. Pourquoi ouvrir une autre ville? Ben, ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a de plus en plus de concurrents dans votre première ville. Le but, ce serait soit de performer et d'être vraiment le leader de cette ville, soit vous dites, bon, ben, j'ouvrirai une seconde ville, comme ça, je vais récupérer les parts de marché de cette ville-là. Mais ça peut être aussi parce que vous avez peur de la réglementation. Dans cette première ville, c'est une ville plutôt grande, on va dire, et vous avez peur que vous n'ayez plus le droit de louer. Et bien ça, c'est une bonne raison d'aller dans une seconde ville qui est de taille moyenne. Comme ça, votre conciergerie, votre business va pas s'arrêter du jour au lendemain s'il y a une réglementation qui dit qu'on ne peut plus louer en location courte durée. Et troisième raison de s'ouvrir à une seconde ville, mais vous êtes le leader de la première ville. Vous voulez vous développer davantage, vous n'arrivez pas depuis quelques mois à avoir de nouveaux clients, peut-être parce que ben, le marché est déjà pris par vous et par d'autres conciergeries. Passons à la dernière question déjà. Alors, quel service proposer et quel service ne fait pas partie du rôle de conciergerie? Alors, les services que l'on peut proposer, ce serait création de l'annonce, optimisation de la visibilité de l'annonce, gestion des tarifs, prise des photos, réalisation de l'entretien du logement, prise en charge du linge, location du linge, service voyageur, intendance, maintenance. Là, je vous ai énuméré tous ceux auxquels j'ai pensé, peut-être qu'il y en a d'autres. Ceux qui ne font pas partie du rôle de conciergerie, c'est ceux qu'on ne peut pas faire sans carte G. Donc sans carte G, on ne peut pas faire la publicité du logement pour trouver des locataires, on ne peut pas réceptionner des loyers, on ne peut pas prendre des réservations directes via un site web, il faut y faire très attention, et j'imagine qu'il y a d'autres petites règles. Donc vraiment, c'est très réglementé, ne faites pas de bêtises, ne récoltez pas des loyers, surtout. Donc voilà. Donc là, j'ai répondu à cette question. Bien sûr, il y en avait plein d'autres, je les ai sélectionnées. Passons au moment un peu plus drôle. J'ai sélectionné trois anecdotes que vous m'aviez données quand je vous avais posé la question d'ailleurs des anecdotes. Et d'ailleurs, au moment où je me suis dit que j'allais vous donner les anecdotes, j'ai publié une story sur Instagram pour vous demander d'autres anecdotes. Donc, je les regarderai en direct avec vous. Donc, une des anecdotes, c'est des gens de la capitale en vacances dans le sud voulaient que j'intervienne pour exterminer deux guêpes qui étaient entrées dans la maison. Oui, c'est vrai. Après, peut-être que ces personnes sont allergiques aux guêpes ou ont juste peur, mais c'est vrai. Alors, un client m'appelle énervé en me demandant de venir changer les cuillères en bois pour la cuisine car elles sont cassées. Les cuillères en bois étaient des spatules raclette en excellent état. Ah oui, là, ça devait être des clients qui n'avaient jamais mangé de raclette. Les mouettes à l'extérieur font trop de bruit, donc ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre sans gêne. Ah oui, ben, ils voulaient des vacances reposantes. Passons aux anecdotes que vous venez de me dire. Alors, il y en a deux. Un client gêné par le bruit du lampadaire dans la rue. Ah oui, effectivement, là, on a un champion. Et pas une anecdote, mais un conseil. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok, super. Bon, ben c'est tout pour cet épisode. Si je vous fais un récapitulatif, pensez à mettre une note sur les plateformes Apple Podcast, Spotify. Abonnez-vous à la newsletter si vous voulez la recevoir demain, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Et ben je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.